Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 15 décembre, l'an 2000, à Saint-Jodard.
C'est toujours le souci de montrer, au point de vue philosophique, comment l'acquisition des vertus est, d'une certaine manière, commandée par l'amour d'amitié. Et nous sommes dans la perspective de voir comment on peut éduquer, acquérir les vertus, surtout aujourd'hui. On a beaucoup trop vécu une morale formaliste. Il faut faire ça. Ça marche, et ça a marché quand il y avait un cadre chrétien. Puis, quand il y avait un cadre chrétien, si le point de vue formaliste ne marchait pas, on rappelait, fais ça par amour pour Jésus, le petit enfant. Vous voyez ? Par amour pour Jésus, on mettait, au fond, l'acquisition des vertus était commandée par une finalité, qui était l'amour du Christ. C'est très juste pour une éducation chrétienne. Mais aujourd'hui, et puis en réfléchissant, il faut regarder quand même. Est-ce qu'il y a une morale humaine qui peut exister indépendamment du Christ? Je dis oui. Donc, il faut acquérir les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force, la tempérance, et avec la tempérance, la chasteté. Il faut acquérir ces vertus en voyant bien la finalité qui les réclame directement. En morale proprement humaine, c'est donc la finalité première, c'est l'amour d'amitié. Donc, vous voyez, pour nous qui sommes chrétiens, c'est évident que la finalité, on ne s'arrête pas à cette finalité-là. Mais si nous sommes appelés à essayer d'éduquer des jeunes dans un milieu purement païen, ce qui peut très bien arriver, on peut évidemment leur parler de Jésus. Mais il faut aussi leur faire comprendre au niveau purement humain l'amitié avec le petit camarade, qui est une finalité bien plus directe. Beaucoup moins forte, c'est évident, et beaucoup plus directe. Et c'est ce qui me fait réfléchir sur le point de vue de cette morale purement humaine, comment cette morale purement humaine réclame les vertus. Ça, c'est sûr. Et redonner aux vertus leur vraie signification. Pas télescoper. Parce que quand on télescope, quand je dis télescoper, c'est-à-dire on passe au-delà de la finalité propre, à une finalité plus ultime. On peut faire ça quand on connaît le milieu, quand il y a un milieu chrétien. Mais quand il n'y a pas de milieu chrétien, il faut, je crois, comprendre le fondement de cette morale purement humaine qui permet l'amitié. C'est utile pour l'éducation, mais c'est utile aussi pour notre compréhension des hommes d'aujourd'hui. Nous avons souvent des hommes, et je dis surtout des hommes, qui ont été élevés en dehors d'un milieu chrétien et qui sont vertueux. Il faut comprendre ce que cela représente et comment cela repose sur une certaine finalité immédiate, qui est l'amour d'amitié. Si vous voyez autre chose, vous, parce que je cherche là-dessus, si vous voyez autre chose, dites-le par écrit. Je crois que la finalité des vertus ne peut se faire que par l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est pris d'une façon très vaste. La connaissance et l'amour de la personne de l'autre. Il peut aller jusqu'à l'amitié, la camaraderie, c'est déjà quelque chose. La camaraderie a ses lois d'éthique. Alors, après la prudence que nous avons vue la dernière fois, il faut comprendre le point de vue de la justice. Je crois que l'amour d'amitié exige que l'ami ait un sens des droits de son ami. L'amitié ne supprime pas les droits de l'ami. Les droits, le ius. C'est très difficile à préciser ce que c'est que le ius. En latin, traduit le ius, c'est le ius, traduit le droit. J'ai le droit à manger. C'est ce que j'ai le droit, si je n'ai pas de nourriture. Et que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir me nourrir. C'est une communauté qui vous nourrit, c'est différent. Vous êtes dépendant de la communauté. Alors vous ne pouvez pas prendre ce droit sans l'acquisition, sans que la communauté dise oui. Je n'ai pas beaucoup mangé à midi. Si je suis en ville, parce que ici, il n'y a pas à manger. Mais si j'ai envie, je passerai devant les possibilités de me nourrir. Alors j'ai le droit de suivre un pain pour me nourrir. J'aurai le droit de le faire si la communauté me dit on ne peut pas vous nourrir, débrouillez-vous. On a le droit de nourrir, c'est toujours ce langage qu'on trouve véritablement chez les gens. Un type qui sortait de prison pour raconter son histoire. J'ai dit devant le juge, vous auriez été à ma place, vous auriez fait comme j'ai fait. Alors vous allez me condamner, mais faites attention qu'en faisant ça, vous vous condamnez vous-même. Un jour, j'avais faim. J'avais fait tout ce que j'avais pu pour avoir la nourriture. Je ne pouvais pas. Je n'avais plus un sou. Alors j'avais faim. Je suis passé devant une boulangerie. J'ai fait attention. Bon moment. J'ai pris un petit pain. Alors, il fallait demander si avec le petit pain, il n'y avait pas autre chose. Hein. La caisse. que je lui ai dit, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, très bien, oui, tu avais le droit de prendre ce petit pain, mais est-ce que tu as pris la caisse ou quelque chose de la caisse? Il dit, oui, il y avait quelques billets là, il fallait bien les prendre. Donc tu n'as pas été condamné à cause du petit pain, tu as été condamné parce que tu as pris, tu as mis la main dans la caisse. On ne pouvait pas condamner à pris un petit pain. On ne l'aurait pas condamné s'il n'y avait que le petit pain. Et l'autre chose, vous savez, c'est le gars qui raconte qu'il a volé une corde. Et derrière, il y avait une vache. La justice consiste à voir exactement les droits de l'autre. Les droits de l'autre. Mais... et les droits de l'ami. L'ami a des droits vis-à-vis de moi très précis. Plus que n'importe quel autre. Puisque, étant mon ami, il est tout proche de moi, affectivement. Et donc, ses droits, je dois les respecter. Alors, on a le droit à manger à sa faim. Seuls des motifs supérieurs peuvent permettre le jeûne. Manger aujourd'hui, puisque c'est vendredi de l'Avent. Alors, on serre sa ceinture. Je le fais pour un motif supérieur, pas un motif de morale humaine, de morale divine, de morale chrétienne. C'est très important de voir ça. Pour que la vertu soit vraiment exercée. Mais, au point de vue purement humain, nous avons tous des droits. Des droits à la nourriture. L'homme a le droit de se nourrir, de ne pas crever de faim. A-t-il le droit à la boisson? Tous les matins, a-t-il le droit à la boisson? Ou à midi? A-t-il le droit au petit rouge? Et celui qui est habitué à boire son vin tous les jours, oh, c'est un droit. Vous voyez, et à ce moment-là, c'est un droit qui est né, c'est un besoin qui est né, un besoin qui ne repose pas sur un droit. Il faut discerner humainement, et ça fait partie de la conscience qu'on doit prendre de soi, quels sont nos droits. Un religieux a fait vœu de pauvreté. La pauvreté, elle porte sur quoi? Sur les droits. Alors, est-ce qu'un religieux a des droits? Il a des droits selon les constitutions. C'est pour ça qu'il fait profession selon les constitutions. Mais a-t-il le droit de réclamer ce que les constitutions peuvent dire si un supérieur le met dans une situation spéciale? Particulière. Il peut réclamer au supérieur. Mais le supérieur peut lui dire, parce que en tant que supérieur, il a à adapter les constitutions, peut lui dire, actuellement, je ne peux pas faire autrement. Pour un bien supérieur, le bien commun. On n'a pas un droit à ce que les constitutions soient appliquées directement, immédiatement. Les supérieurs ont le droit de demander à un religieux, pas tout le temps, il n'a pas le droit de faire tout le temps ça, mais momentanément. Je me souviens, quand j'étais à Fribourg, c'était pas un couvent. À ce moment-là, on n'avait pas le droit. La loi suisse demandait qu'il n'y ait pas de nouveau couvent. Donc, c'était pas un couvent. On était simplement réunis là, tous les professeurs de l'université, et puis c'est tout. On n'avait pas le droit de vivre notre vie conventuelle publiquement. Réciter l'office. Ça pouvait se faire, mais caché. Je me souviens très bien, mon supérieur est venu me le dire, est-ce que vous acceptez, parce que vous pourriez réclamer, mais je vous demande de l'accepter. Ça aurait été contraire à la vie religieuse, au fait de pauvreté, que de réclamer. Alors ça, ça fait partie de l'éthique religieuse. Dans l'éthique purement naturelle, on a des droits naturels à la vie et donc avoir le minimum de nourriture pour tenir. C'est un droit que la société doit reconnaître. Et quand on est en état de crise, où l'État lui-même ne peut pas faire ça, on est obligé de subir ça. Au nom du bien commun. Alors, il faut réfléchir sur ces droits. Le droit à la vie, le droit à la nourriture, le droit au sommeil. Le droit à la recherche de la vérité. C'est un droit. Notre intelligence a le droit d'atteindre la vérité. Parce que la vérité seule la nourrit. Savoir les nouvelles politiques générales, pas les nouvelles politiques de chaque instant, de chaque jour. Et c'est très curieux de préciser les droits naturels de chacun. Et il le faut pour acquérir la vertu de justice. La vertu de justice, c'est respecter les droits de l'autre. Et respecter les droits de l'ami, en premier lieu. C'est pas parce qu'il est mon ami que je peux oublier ses droits. Au contraire, je dois être particulièrement éveillé aux droits de l'ami. Parce que s'il est plus proche de moi, je dois être, moi, plus proche de lui. Et donc, je dois comprendre qu'il a des droits très particuliers comme ami. Il y a un jus amicitiae, il y a un droit de l'ami, de l'amitié. Quelqu'un qui vous dit « je suis ton ami », à partir de, et vous répondez de même, à partir de ce moment-là, il y a un droit d'amitié qui naît. Alors, vous voyez, ce droit de l'amitié est très souple. Vous ne pouvez pas le préciser uniquement vous-même. Vous devez le préciser avec votre ami. Ça, c'est sûr. Et on peut le préciser avec son ami, en tenant compte de son ami. Il ne faut pas dire « ça m'est égal, je ne l'aurai pas ». Olivier ? Il y a des droits plus profonds au point de vue éducatif. J'ai le droit à pouvoir me développer humainement suffisamment pour me débrouiller, avoir une autonomie de citoyen. Et c'est évident, si la nature l'empêche, c'est différent. Alors à ce moment-là, on est comme infirme. Et on a les droits de l'infirme. Et les droits de l'infirme, c'est justement qu'on doit être plus attentif à cet infirme quand on est dans ces circonstances particulières où il est démuni de droits normaux. Il a des droits extraordinaires. La vertu de justice qui respecte les droits de l'autre se divise en justice commutative. La justice commutative, elle s'enracine dans le troc, donnant, donnant. Je sais le prix des choses, j'achète. Je mets de la monnaie pour avoir le prix. C'est la justice commutative quand vous achetez, quand vous demandez le prix. Et pour des choses très rares, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, il faut donc s'entendre directement. La justice commutative va se doubler d'une justice distributive. La justice distributive, c'est de regarder les droits particuliers de quelqu'un, d'une personne qui a des charges, d'une personne qui a des qualités particulières. Un médecin a fait tant d'années d'études. Ces années d'études l'ont donné des capacités qui fait qu'il a le droit de faire payer ses visites médicales. C'est le droit de la justice habituelle. Tandis que dans la justice commutative, dans la justice commutative, je ne fais aucune attention à la personne et au droit de la personne qui me vend ces objets. Il les vend au prix indiqué. C'est pas parce qu'il a des diplômes, des capacités supérieures, que le prix de sa marchandise aura plus de valeur. Tandis que dans la justice distributive, elle agit pour celui qui doit organiser une communauté, mettre autant que possible les compétences en valeur de chacun. Ça, c'est la vertu de justice distributive. En vie religieuse, alors on passe sous un autre régime, c'est différent. vous n'êtes pas obligé de mettre chaque religieux là où ses qualités pourront s'épanouir. C'est même contraire à la vie religieuse. C'est une exigence de justice humaine, normale, de demander à chacun, selon ses compétences. Et celui qui a autorité doit organiser ça. Un religieux qui réclamerait à cause de ses compétences qu'on n'a pas respecté assez. Vous voyez, ce serait contraire à l'esprit de pauvreté. Et d'autre part, si le supérieur ne tient aucun compte de ça, il pourrait y avoir des manquements de justice distributive. Saint Thomas note que les fautes contre la justice distributive sont plus graves que les fautes de la justice commutative. Dans la justice commutative, on voit plus directement les manques. Parce que les fautes contre la justice distributive détraquent une communauté. Vous voyez, ça se voit très fort au point de vue politique, ça. Quand on passe avec les élections d'un régime à l'autre. C'était un chrétien, ce sera un musulman. C'était un chrétien très libéral, ce sera un musulman très rigoureux. Tout changera. Et alors à ce moment-là, on fait passer avant les petits copains. Et c'est contraire à la justice distributive. On met des gens incompétents, mais on les met en place uniquement parce qu'ils sont du parti. Ils sont du même parti. Et ça, c'est détraque tout. Et là, ça se fait constamment, ça. Donc, on doit comprendre ce que c'est que la justice distributive qui fait que... Je crois que pécher contre la justice distributive peut arriver à rendre pratiquement une communauté fervente, il faut être intelligent pour respecter les compétences et en même temps ne pas être dépendant de ces compétences. La justice légale. La justice légale, c'est la justice par rapport à la loi. C'est pas ça qu'on appelle légal. Chaque pays a ses lois qui régissent sa justice. On doit, autant que possible, quand on est citoyen d'un pays, savoir les lois positives de ce pays. Justice légale maintient au gouvernement. Il faut être attentif au juste, à la vertu de justice légale pour maintenir l'ordre de la communauté. Le bien commun très souvent, est en dépendance directe de la justice légale, de la justice distributive, et moins de la justice commutative. Alors que dans une famille, au sens strict, il n'y a pas de justice commutative entre le père et ses enfants, entre la mère et ses enfants. Puisque le bien familial est plus fort que ce bien particulier des individus. Mais en dehors de la famille, tout de suite, la justice commutative joue un rôle capital, un rôle fondamental, disons. Parce que capital, c'est la justice distributive et la justice légale. Donc, vous voyez, les diversités de ces justices, c'est très important. Et ça, c'est d'Aristote. Saint Thomas les a pris directement, Aristote. La justice est une vertu qui est dans notre volonté. On l'acquiert, la vertu de justice. On ne naît pas juste. On acquiert la vertu de justice. C'est une vertu qui s'acquiert comme la prudence. Il ne faut pas croire qu'on est juste naturellement. Surtout pour nous, quand on sait que le péché originel. Vous voyez, c'est une vertu qui est toujours en dépendance de la prudence. L'exercice de la vertu de justice dépend de la prudence. Parce que c'est surtout par rapport au bien commun que la vertu de justice va pouvoir s'exercer. Alors, le bien commun, qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Et on a beaucoup écrit sur le bien commun. Respecter le bien commun, ça relève de quelle justice ? De la justice légale, de la justice commutative, de la justice distributive, si on a autorité. C'est vrai, la justice commutative joue pour le bien commun, la justice légale joue pour le bien commun, la justice distributive aussi, si on a l'élevé de commande, si on doit exercer la communion. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? C'est facile à définir négativement, et c'est très difficile positivement. Le bien commun, c'est celui qu'on acquiert à plusieurs. Le bien commun d'un pays. Et le bien commun d'une communauté. C'est le bien qui n'est pas le bien particulier, personnel. Ce n'est pas le bien personnel de tel individu. Ce n'est pas le bien personnel de... Donc, ce n'est pas le bien personnel, et c'est le bien qui est acquis souvent par plusieurs. Mais ça peut être un bien qui a été donné pour tous. N'est pas acquis par la communauté. donné pour tous. On reçoit des aumônes, on reçoit des dons qui sont pour le bien commun. On n'a pas le droit d'accaparer pour soi. Mais qu'on doit reconnaître qu'ils sont donnés pour tous. Et ça, ça rentre directement dans la justice. Il faut comprendre que la justice, elle permet à la communauté de vivre. L'amitié est au-dessus du bien commun, puisque c'est un bien personnel. Donc, le bien commun est en dessous du jus amicitiae. Et le bien commun repose sur les lois d'un État. Les lois vont orienter ce bien commun. Vous voyez, des lois injustes, ça arrive hein, actuellement. Les lois injustes faussent le bien commun d'un pays. Et le bien commun d'un pays devient infesté, abîmé par des lois injustes. C'est très grave quand le bien commun est faussé, parce qu'alors on ne peut plus obéir, on détourne. Et on ne paie plus ses impôts. Payer ses impôts, ça regarde la justice légale. Et c'est une justice légale. Tandis que payer un ouvrier pour telle ou telle chose particulière, c'est la justice commutative. Mais un ouvrier compétent, qualifié, a le droit de demander plus, justice distributive. En tant qu'il est compétent, en tant qu'il a des galons supérieurs. Et le point de vue des différentes justices sont une chose très importante à étudier, parce qu'on est toujours en face de cela. Et ça, je crois, il faut être très, très lucide là-dessus. Il faut bien voir l'acquisition de la vertu de justice dans ses différentes activités. Et bien comprendre que ce n'est pas du tout donné d'une manière infuse. On dira quelquefois que la vie religieuse fait qu'on a moins le sens des vertus de justice légale. C'est vrai, ça peut très bien exister, ça. Parce que on a tous une attention limitée. Si notre attention part vers quelque chose de très élevé, une recherche de la vérité très élevée, on négligera les vertus. La la justice distributive, la justice légale, la justice communautaire forment un homme juste. Le citoyen doit être un homme juste. Et le point de vue de la prudence doit veiller à ça. Reçu dans notre volonté. C'est un bien qu'on respecte, le bien de l'autre.